Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les accélérations divines dans 1 Rois, chapitre 18, verset 41. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Il y a des moments dans la vie où les choses semblent être bloquées, où nous n'avançons pas, où les portes sont fermées, où les opportunités que nous espérions n'ont pas abouti. Et on a l'impression de tourner en rond, d'être dans une situation sans issue. On a l'impression qu'on frappe à des portes et qu'elles restent fermées. On n'a pas l'évolution qu'on espérait dans notre carrière. Les choses donc sont comme bloquées. Et cela peut durer 1 mois, 2 mois, voire des années, et sans que les choses évoluent. Mais ce matin, nous allons voir comment Dieu peut, du jour au lendemain, changer des situations en accélérant des processus. Regardez 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Comment Dieu intervient dans le temps d'une manière miraculeuse. « Mais il est une chose bien aimée, dit la parole, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc pour Dieu, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le temps, ce n'est pas un problème. Et que ce qui pour nous semble durer un temps infini où on dira « on n'y arrivera jamais, ça va être trop long », mais Dieu peut, en un seul jour, réaliser ce qu'il faudrait 1000 ans pour accomplir. Donc une très longue durée. Dieu a créé le temps, hein, en même temps que l'univers. C'est ce qu'on appelle l'espace-temps. C'est la fameuse découverte d'Albert Einstein en 1905. Il a découvert la relativité du temps, c'est-à-dire que le temps ne passe pas à la même vitesse partout dans l'univers. Mais c'était déjà écrit dans la parole de Dieu parce que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc le temps est relatif. Le temps n'est pas le même pour tout le monde. Et Dieu est tellement puissant qu'il peut le faire en une seconde ce qu'il faudrait des années pour accomplir. Regardez quand Jésus a transformé de l'eau en vin. C'était à Cana. Il n'y avait plus de vin. Ils ont appelé Jésus pour dire « Nous n'avons plus de vin, que pouvons-nous faire ?» Jésus a dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Il y avait 6 jarres. Une jarre, ça faisait 100 litres. Donc 6 jarres, ça faisait 600 litres. On a des experts en mathématiques. 600 litres d'eau, 600 litres d'eau, mais ça ne fait pas du vin. Sauf que Jésus a dit, prenez de l'eau de ces jarres et allez en porter à l'ordonnateur du repas. Et quand l'ordonnateur du repas a goûté, en fait, cette eau qui venait des jarres, elle s'était transformée en vin. Il dit, mais c'est un vin tellement excellent, pourquoi l'as-tu gardé jusqu'à maintenant, alors qu'habituellement, on met le meilleur vin au début et puis on met le moins bon quand les gens ont déjà bu, comme ça, ils sont un peu sous l'ivresse. Eh bien, le meilleur vin a été produit donc en quelques instants. Combien de temps a-t-il fallu au Seigneur pour produire un Saint-Émilion ? 1 seconde. Alors, si l'ordonnateur avait goûté le vin, et vous savez que ce sont des spécialistes, et ils peuvent dire, ben, ce vin, voilà, il a par exemple, 15 ans d'âge. Il vient de telle région, voilà, il a été, les vignes de ce vignoble réputé. Ils arrivent à estimer. Eh bien, très certainement qu'il aurait évalué l'âge de ce vin à peut-être 15 ans. Parce que pour faire un bon vin, il faut au minimum 5 à 7 ans. Donc, 5 à 7 ans qui ont été compressés dans une fraction de seconde. C'est pour ça que nous croyons que Dieu est le maître du temps. Et ce qui pour nous paraît impossible aujourd'hui est toujours possible pour Dieu. Et qu'en un instant, il peut changer les situations. J'en viens à ce récit. Dans ce passage, nous trouvons le prophète Élie qui est dans une situation de sécheresse parce que depuis 3 ans et demi, il n'a pas plu sur la surface de la terre. Et donc la situation était bloquée, la situation est désespérée, il n'y avait pas d'issue, on ne savait pas comment la changer. Les gens se plaignaient de la situation, évidemment vous n'avez pas d'eau, vous ne savez pas comment vous allez survivre. Et Élie est un homme de foi. Et lui, il y a 3 choses qu'il va faire, et nous les voyons dans ce texte. La première, c'est qu'il va développer une autre audition. Il y a un contraste entre Élie, qui est l'homme de Dieu qui prie et qui cherche Dieu, et le roi Achab, qui est un homme attaché aux choses de la terre. Celui qui prie va entendre les sons de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, la Bible dit « Chaque matin, Dieu, il éveille ». Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sons de Dieu que nous n'entendons pas forcément, mais que Élie, dans son temps de prière, il dit « j'entends un bruit qui annonce la pluie ». Donc il entend les sons qui ne sont pas de ce monde, mais qui sont spirituels. Et nous savons qu'il existe déjà des sons dans ce monde que nous n'entendons pas tous. Par exemple, certains animaux, comme les dauphins, ont une amplitude pour entendre beaucoup plus élevée que la nôtre. Ils entendent des sons entre 20 et 200 000 Hertz, tandis que nous, c'est entre 20 et environ 20 000. Donc, beaucoup, beaucoup plus, c'est-à-dire qu'ils entendent les ultrasons. Donc, nous savons qu'il existe des sons, là, qui circulent même actuellement, que nous n'entendons pas parce qu'ils sont au-delà de notre capacité. Mais il y a aussi des sons qui sont des infrasons. Par exemple, les éléphants sont capables d'entendre des sons bien en dessous de 20 Hertz, entre 0 et 20 Hertz. Il y a aussi des sons très très graves que nous n'entendons pas non plus. Donc, les éléphants et les dauphins, si on les met ensemble, ils ont une amplitude énorme. Et ils entendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons. Mais si je lis la parole de Dieu, je me rends compte que Paul, qui est un homme comme nous, un être humain, donc avec son ouïe limitée, la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu et qu'il a entendu des sons qui se passent au ciel. Mais pour entendre les sons qui se passent au ciel, ce n'est pas avec cette oreille-là. Il faut que Dieu nous ouvre l'oreille du cœur, de l'âme, pour entendre les sons de Dieu. Et ces sons existent, alors nous n'y avons pas accès naturellement, mais si Dieu nous ouvre l'oreille, nous allons entendre les sons de Dieu et nous allons commencer à entendre le Seigneur nous parler. Élie donc développe une autre audition, c'est la première chose. Il commence à entendre des sons que les autres n'entendent pas. Deuxièmement, il commence à développer une autre vision. Comment il développe une autre vision? En priant. En fait, il va se mettre au sommet du mont Carmel, la tête entre les genoux. Et donc, visuellement, on va dire, il va fermer les yeux et il va regarder vers le sol. Mais en fermant les yeux, qu'est-ce qui se passe? Il développe la foi. C'est une autre vision. Parce que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, avec nos yeux humains, mais nous marchons par la foi. Si bien que nous pouvons fermer les yeux ce matin et prier dans notre cœur et développer une vision spirituelle. C'est ce que fait Élie. Et en priant, il commence à voir la pluie qui va venir. Il n'est pas météorologue, il n'a pas les outils pour dire il va pleuvoir dans... Vous savez, aujourd'hui, avec des applications, dans une heure, on sait qu'il va pleuvoir parce que tout est calculé aujourd'hui. Il n'a aucun moyen de le savoir, mais il dit à son serviteur, « Regarde, monte au sommet du Carmel et regarde à l'horizon. » Et le serviteur ouvre bien les yeux, mais voyez la différence, il a bien les yeux ouverts, il ne voit rien. Et il dit à Élie, il n'y a rien. Tandis que Élie, lui, il a les yeux fermés, mais il a la vision. Et lui, il voit. Il voit qu'un petit nuage va arriver. Mais le serviteur se décourage. Et il dit, mais non, il n'y a rien. Une fois, deux fois, trois fois, six fois, il n'y a toujours rien. Et on voit là qu'Élie ne se laisse pas décourager par la vision humaine parce qu'il a une vision spirituelle. Si vous avez la foi, si vous croyez en Jésus, vous allez avoir une telle vision que même si on vous dit le contraire, même si on vous décourage, vous gardez la vision. Dans votre cœur, c'est une certitude, la pluie va arriver. Et la septième fois, eh bien, le petit nuage arrive. C'est encore un petit signe, c'est encore bien lointain, mais c'est déjà l'accomplissement. Élie, donc, après avoir développé une autre vision, la troisième chose qu'il fait, c'est un autre langage. Il développe un autre langage, parce que si vous lisez le texte, alors qu'il n'y a que ce petit nuage, et regardez la parole du serviteur, il dit, mais c'est vrai, il y a un nuage, mais il est petit comme la paume d'une main, c'est-à-dire, c'est un petit nuage, ça ne va pas aboutir à ce qu'on espère. Ce n'est pas ça qu'il nous faut, il nous faut plus. Donc, on va dire, ce sont des paroles décourageantes. Tandis que Élie, quand il entend parler du petit nuage, il parle de grande pluie. C'est autre chose. Ce n'est pas la même parole que le serviteur. Il n'y a aucune goutte qui est tombée encore. Il n'y a rien qui peut prouver que ça va se faire, mais déjà, dans son langage, il parle d'une grande pluie qui va survenir. Pourquoi ? Parce qu'il a une vision qu'il a développée dans son cœur et parce que cela a affecté ses paroles. Et plus vous allez être proche de Dieu, en fait, plus vous allez développer votre foi et ensuite, votre langage va changer. Et vous allez commencer à parler les paroles de Dieu, comme Élie, qui s'est mis à parler selon la volonté de Dieu. Alors, vous ne serez peut-être pas nombreux, parce que quand on regarde la Bible, quand Moïse a envoyé 12 espions pour espionner le pays afin de savoir si on pouvait le conquérir, il y en a 10 qui ont dit « on n'y arrivera jamais, c'est un peuple de géants, il y a des villes fortifiées, c'est pas possible ». Le discours donc, négatif, décourageant. Mais par contre, il y en a 2 qui avaient la vision et qui disent à Moïse « mais oui, c'est vrai, il y a un peuple fort, il y a des villes fortifiées, mais on a une parole de Dieu ». Montons et nous serons vainqueurs. Et donc, ils ont des paroles encourageantes. Mais vous avez remarqué qu'ils sont moins nombreux que ceux qui avaient des paroles de découragement. Et finalement, c'est le découragement qui a prévalu et le peuple a dû errer 40 ans dans le désert à cause de leur désobéissance, car ils n'ont pas voulu monter. Et pourtant, il y en avait 2 qui avaient raison, Josué et Caleb, parce qu'ils avaient développé une autre vision et un autre langage. Élie, enfin, reconnaît dans ce petit signe insignifiant, c'est-à-dire ce petit nuage, il reconnaît déjà la main de Dieu. Regardez 1 Roi, chapitre 18, verset 45, c'est le verset que je voulais souligner. « En peu d'instants ». Donc, il y a eu ce petit nuage très lointain, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. « En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jézréel. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le plan naturel, il aurait peut-être fallu des heures ou des semaines pour que les choses prennent place, mais sur le plan spirituel, en peu d'instants, les choses se sont installées. Voilà comment Dieu agit. Il accélère les processus qui mettraient des heures ou des mois à s'établir. Et peut-être c'est votre situation, vous êtes dans une situation bloqué, même financièrement, il n'y a pas d'issue, vous ne voyez pas la fin, vous êtes endetté, vous ne savez pas comment vous en sortir, mais vous pouvez continuer à prier, le petit nuage, vous allez le voir, mais ce petit nuage est déjà un signe annonciateur, en peu d'instants, les choses peuvent changer. Et frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien, là aujourd'hui, la situation est toujours la même, qu'il ne se passe rien. Parce que les choses agissent, les choses se mettent en place. Dieu agit dans le secret alors que nous ne le voyons pas. Il y a un élément dans la nature qui nous parle, c'est le bambou chinois. Le bambou chinois, c'est une plante très particulière parce que si vous semez une pousse de bambou en terre, en fait, il ne se passe rien. Vous ne voyez rien à la surface. Vous l'arrosez, vous en prenez soin, mais il ne se passe rien. En tout cas, avec vos yeux, vous ne voyez rien. Mais sous la terre, il est en train de développer des racines. Une année passe, deux années passent, vous l'arrosez, vous en prenez soin, il ne se passe rien. Il va se passer 5 ans. Alors vous pourriez être découragé en disant « mais ça ne sert à rien, je m'occupe d'une plante morte, elle ne pousse pas ». Vous ne le voyez pas, mais sous la terre, pendant ces 5 années, elle développe des racines, un réseau de racines très puissant. Et la 5e année, le bambou sort. Et là, en seulement 6 semaines, il atteint la taille de 30 mètres. C'est la plante qui pousse le plus rapidement, jusqu'à 1 mètre par jour. C'est donc une accélération qui se produit à un moment donné, et ces éléments qui existent dans la nature nous parlent aussi de la manière dont Dieu procède, qu'il y a des phases dans la vie où les choses semblent stagner, mais tout d'un coup, quand Dieu prend le contrôle, les choses s'accélèrent et prennent une autre tournure. Je vous donne un autre exemple dans le Nouveau Testament, celui de Paul et de Silas, lorsqu'ils arrivent dans la ville de Philippe. Et dans cette ville, il y a des grandes bénédictions, puisque lorsqu'ils prêchent la parole de Dieu, il y a une femme qui était marchande de pourpre, qui s'appelait Lydie, qui s'est convertie. Il y a une femme qui était possédée d'un esprit de Python, c'est-à-dire un esprit de divination, qui se convertit, qui se donne au Seigneur, elle est changée, elle est délivrée. Et puis, à cause de l'Évangile, ils sont frappés, on leur arrache les vêtements, on les jette en prison. C'est pas normal, c'est pas juste. Mais ils sont là en prison et ils sont maltraités à cause de l'Évangile. Alors, c'est facile de bénir le Seigneur et de l'adorer quand tout va bien. Mais quand vous êtes malmené, quand vous êtes critiqué, quand vous êtes jugé, quand on vous persécute, est-ce que nous allons avoir la même attitude? Et Paul et Silas ont décidé de ne pas se laisser décourager par le contexte difficile, c'est-à-dire les choses négatives, mais ils ont décidé de s'encourager et ils ne sont pas tombés dans la plainte parce qu'ils auraient pu se dire « ben voilà, on sert le Seigneur et puis depuis qu'on sert le Seigneur, on a plein de problèmes, on n'avait pas avant ». Ils auraient pu se décourager l'un l'autre. Parfois, j'ai rencontré des personnes qui avaient le don du découragement. Vous les voyez arriver, vous êtes déjà découragé rien qu'en les voyant arriver. Ils vous regardent, ils vous découragent. Ils n'ont même pas encore prononcé une parole, vous êtes découragé. Parce que leur attitude est décourageante. Ça existe. J'ai eu l'occasion, vous en connaissez aussi. Il y en a qui disent oui, c'est vrai. J'ai fait un jour un voyage avec un chrétien. Un chrétien qui commence à me parler, donc c'était pour aller à une réunion où je devais prêcher la parole de Dieu. Et il commence à me parler de tous les problèmes du monde. Et il me dit, mais pasteur, bientôt il n'y aura plus d'essence. Et je lui dis, il me montre par tous les... Et c'est vrai en plus, que bientôt il n'y aura plus d'essence. Un jour il n'y aura plus d'essence. Mais comment on va faire? Et il me parle de ces problèmes-là. Et je me disais, mais comment on va faire pour faire tous ces déplacements quand on n'aura plus d'essence? Vous y avez pensé, vous? Eh bien, il me chargeait de tous ses fardeaux. Et je me disais, mais comment on va faire? Parce qu'il va falloir retourner au cheval. Il va falloir faire des stocks d'avoine dans les maisons pour pouvoir nourrir les chevaux et tout. Et je réfléchissais, mais comment on va faire? On n'a pas de solution. Alors, il continue à me parler de ses problèmes et il me dit, mais de toute façon, ça ne sert plus à rien de faire des économies parce que toutes les banques vont s'effondrer. Et je lui dis, il a raison en plus. Parce que ça va tellement mal au niveau de l'économie qu'un jour ou l'autre, tout va s'effondrer et toutes nos économies, parce que les banques, ils vont prendre ce qu'il y a dans les banques pour payer tout ce qu'il y a à payer. Alors là, j'ai dit, comment on va faire? Parce que je voyais toutes mes petites économies disparaître sous mes yeux. Et il continue à me parler de tous ces problèmes et il me dit, de toute façon, c'est bientôt la 3e guerre mondiale et l'Antichrist arrive. Alors je suis arrivé à la réunion, j'étais complètement découragé. Il m'avait découragé tout le long du trajet. Et c'est un chrétien! C'est un chrétien, il connaît Dieu. J'ai jamais vu des paroles aussi décourageantes. Alors pourquoi nous qui sommes chrétiens, on est capable de décourager les autres alors qu'on a une espérance et on a une foi qui est capable d'apporter l'encouragement? Pourquoi est-ce que nous chrétiens, on ne donnerait pas des paroles d'encouragement plutôt que de tout ce qui existe et qui peut décourager, qui peut abattre, qui peut détruire? Mais ça, c'est un effort à faire pour changer notre discours. On voit que Paul et Silas n'avaient pas le discours du découragement, mais ils avaient le discours de l'encouragement. Ils ont dit, allez Paul, allez Silas, on va chanter et prier à la gloire du Seigneur. Ils se sont encouragés les uns les autres. D'ailleurs, c'est un verset qu'on trouve dans la parole de Dieu, encore encouragez-vous les uns les autres, mais pas découragez-vous les uns les autres. Ça n'existe pas. Encouragez-vous les uns les autres parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin les uns des autres. Et quand tout va mal, au lieu de se plaindre, au lieu de gémir, au lieu de critiquer, de juger et de dire c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mon collègue, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes enfants, et de toujours ruminer et se plaindre, eh bien, alors qu'ils sont dans la prison, qui pourraient dire c'est la faute du geôlier, c'est la faute de Dieu, il a permis cette situation, on sera toujours malheureux en servant le Seigneur, ils auraient pu avoir ce discours. Ils ont choisi une autre optique, ils ont choisi de faire ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire de chanter et de louer le Seigneur. Acte 16, verset 26, regardez ce qui se passe. Tout à coup, et là on arrive au tout à coup de Dieu, mais d'abord il y a ce que nous pouvons faire. Chanter et célébrer le Seigneur, le prier, nous attendre à sa grâce, rejeter toute pensée vaine. Et tout à coup, ça c'est la part de Dieu maintenant, il se fait un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà les tout à coup de Dieu. Ils surviennent à des moments où vous ne comprenez pas, vous ne le réalisez pas, mais c'est la main de Dieu. C'est-à-dire que pour que ces événements se passent, il aurait fallu peut-être des jours et des mois pour amener ce geôlier à la conversion. Il aurait fallu peut-être des réunions et des heures de discussion. Mais en une seule rencontre, alors qu'il était sur le point de se suicider, Paul lui annonce l'évangile et ce geôlier se convertit. La Bible dit lui et sa famille et ils sont baptisés dans la même réunion. Il y a vraiment eu une accélération spectaculaire. Comme quoi Dieu, quand il prend le contrôle, ce qu'on pense qui devrait durer des mois ou des années se fait en quelques fractions de seconde. En 2008, mon épouse, Laurence, est tombée malade. Plusieurs le savent ici. Elle a été atteinte de maladies qui la faisaient souffrir dans tout le corps. Et on allait voir les médecins, on ne savait pas ce qu'elle avait. Et puis, au bout de quelques semaines, ils ont diagnostiqué trois maladies qui travaillaient ensemble pour la faire souffrir dans tout le corps. C'était une spondylarthrite ankylosante, une fibromyalgie sévère et une maladie orpheline qu'on appelle la maladie de Behçet qui a très peu de cas en Europe. Et ces trois maladies, en fait, concouraient ensemble de telle sorte qu'on ne pouvait pas traiter. Donc, la situation était difficile. Les médecins nous disaient, ben voilà, on va calmer les douleurs avec de la drogue. Donc, elle prenait de l'opium, de la morphine à haute dose, le maximum qu'on pouvait lui donner. Et ça, elle a commencé à le faire pour la soulager. Mais elle avait quand même les douleurs malgré ces traitements douloureux. Et puis, les mois ont passé, et nous, on priait tous les jours, et on priait, et on s'attendait à la grâce de Dieu. Mais, malgré nos prières, la situation se dégradait. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais vous priez, vous priez, vous priez, et plus vous priez, plus la situation se dégrade. Et nous, c'était décourageant, parce qu'avec nos yeux, on voyait bien que ça ne s'améliorait pas. On n'avait pas de signe d'amélioration. Alors, les mois ont passé. Une année entière a passé et puis elle ne pouvait plus venir aux réunions, elle était bloquée à la maison, elle avait mal partout. Une année entière a passé, mais une année c'est long quand vous souffrez, mais quand vous accompagnez quelqu'un qui souffre, c'est difficile. C'est difficile de garder le moral, surtout quand les frères et sœurs me disaient « mais comment va Laurence ?»« Ah ben, ça ne va pas mieux. » Et puis ils vous le demandent une fois le dimanche, mais pas une seule fois, parce qu'il y en a 100 ou 120 qui vous posent la même question. Et puis après, c'est le mardi soir, et puis c'est toutes les réunions. Et puis tout le temps, quand vous ne donnez pas de bonnes nouvelles, c'est décourageant. Donc j'étais découragé moi-même. À chaque fois que je m'entendais parler des nouvelles que je donnais de mon épouse, j'étais découragé. Et donc ça a duré 2 années entières. 2 années entières pendant lesquelles les choses n'avançaient pas. On était bloqués, on n'avait pas de perspective. Et puis, au bout de 2 ans, le Seigneur nous a mis à cœur de prier, de le louer pour la guérison. Et quand on a eu cette pensée, on s'est dit « Merci Seigneur, Dieu va la guérir ». Et on pensait que ça serait dans la semaine, là, ou le jour même. Sauf qu'une journée passe, 2 jours, 1 semaine, et on disait « Merci Seigneur pour la guérison, tu nous as promis, on le croit ». Et pourtant, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de guérison, il n'y avait pas d'amélioration, il n'y avait pas d'avancée particulière. On a fait ça 1 semaine, on a fait ça 1 mois, on a fait ça 6 mois, sans avancée particulière. On louait tous les jours « Merci Seigneur pour la guérison ». J'avais l'impression d'être un peu désaxé. Entre ce que je voyais et ce que je disais, c'était complètement différent. Mais j'ai continué à le faire dans la foi. On l'a continué avec Laurence pendant 1 année entière. Et au bout d'une année entière, alors que personne ne priait particulièrement pour elle à ce moment-là, le Seigneur est intervenu, mais du jour au lendemain, et l'a complètement guérie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Comment expliquer ceci ? C'est une accélération divine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas produire. C'est quelque chose qu'il aurait fallu des mois et des mois pour arriver, parce que le jour même où elle était guérie, elle était complètement guérie. Je veux dire qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire avant, et le dimanche même, elle est venue au culte, le dimanche suivant, mais comme si elle n'avait jamais été malade, tellement la guérison était parfaite. C'est une guérison instantanée, ça a été une guérison accélérée, et ça a été si parfait que même la drogue qu'elle prenait, que normalement il faut la descendre progressivement, eh ben, elle n'a pas eu besoin de sevrage. On avait fait un test à un moment donné parce que la morphine et l'opium, au bout d'un moment, ça abîme les reins. Et donc les médecins avaient voulu descendre les doses très progressivement et déjà elle était en manque. Déjà elle tremblait, déjà elle souffrait de ce manque de médicaments. Eh bien là, du jour au lendemain, elle a pu arrêter sans ressentir aucun manque, sans avoir besoin de sevrage, ce qui n'est pas possible médicalement, mais qui a été permis par Dieu d'une manière miraculeuse. Un autre exemple, c'est celui de Moïse. On connaît bien la vie de Moïse. Sa vie est répartie en 3 fois 40 ans. La première partie de sa vie, les 40 premières années, il a été donc élevé en Égypte, comme il était comme fils du Pharaon. La fille de Pharaon l'avait adopté, il était là dans la cour, il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais un jour, il a vu un Israélite être maltraité et il savait qu'il était d'origine israélite parce que c'est sa propre mère qui l'avait éduqué au tout début. Et donc, il s'est jeté sur l'Égyptien pour le tuer alors qu'il maltraitait, que cet Égyptien maltraitait un Hébreu. Ça n'était pas le temps de Dieu, ça n'était pas la méthode de Dieu. Il a dû fuir, il a passé 40 autres années, donc Moïse entre 40 et 80, il a gardé des brebis de Jéthro, son beau-père, parce qu'il s'est marié avec une fille de Jéthro. Et là, c'est l'école de l'humilité, 40 ans dans la vie où il ne se passe pas grand-chose. Parce que 40 ans dans une vie, c'est quand même une bonne partie de notre vie, si on regarde. C'est pratiquement une durée de cotisation sociale pour la retraite, 40 ans. Bon, quoique ça augmente un petit peu chaque élection, ça augmente un petit peu. Donc plus on s'en approche, plus ça s'éloigne en fait. Mais Dieu ne voit pas de la même manière que nous. Nous, ce qui, pour nous, 40 ans, c'est énorme, mais pour Dieu, ce n'était pas un problème. Moïse, tu vas rester 40 ans là. Et pendant ces 40 ans, en fait, il a humilié Moïse, il a travaillé son âme, il a transformé cet homme pour qu'il soit capable de conduire le peuple. Mais on dirait, nous, 40 ans, il vaut mieux utiliser un homme quand il a 40 ans que quand il a 80 ans. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Il a fait le choix inverse et il a utilisé le temps. Quand un potier réalise un vase d'argile, il commence par donner à l'argile une forme. Et quand il est satisfait de son ouvrage, il va laisser l'argile reposer pendant 15 jours avant de le mettre au four. Pourquoi ? Parce que l'air qui est contenu dans l'argile doit s'évaporer naturellement et ça met une quinzaine de jours. Et pendant ce temps, en fait, l'argile, l'eau qui est contenue dans l'argile, donc, va s'évaporer et l'argile va être réduite de 2 à 8%. C'est la partie, en fait, la plus fragile de ce vase. Et puis, une fois qu'on a attendu les 15 jours, on le met au four et là, il prend toutes ses qualités. Mais si un potier disait « moi, je veux gagner du temps, j'ai fini ma poterie, je la mets au four, il n'attend pas les délais », eh bien, en fait, l'eau qui est contenue dans l'argile fera éclater la poterie dans le four. Donc, si vous allez trop vite, vous cassez les choses. Donc, il y avait un temps pour Dieu. Et quand c'est le moment, le feu est arrivé et là, le vase était prêt. Mais il y a un temps pour l'action. Et Moïse a compris qu'à 40 ans, il y avait l'action, mais ce n'était pas le bon moment. Maintenant qu'il a 80 ans, Dieu l'appelle. Et regardez, c'est dans Exode chapitre 3, verset 10. C'est le mot de Dieu. Dieu lui dit « maintenant ». Et là, Moïse a 80 ans. Mais c'est « maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël ». C'est exactement ce que Moïse voulait faire quand il avait 40 ans. et ça a été un échec. Et maintenant, ça change, puisque c'est Dieu qui dit, maintenant c'est bon, tu peux y aller. Alors, arrivé à l'âge de 80 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 80 ans ou plus ce matin ? On va honorer les personnes âgées. Ouais, gloire à Dieu. Voilà, Moïse, Madame Dos Santos. 80 ans. 80 ans ou plus, hein, j'ai dit. 80 ans ou plus. Voilà, gloire à Dieu. 80 ans, eh bien, il n'a pas été mis au rebut. Il n'a pas été mis de côté, mais du jour au lendemain, il s'est retrouvé à conduire le peuple de Dieu depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Il va se retrouver devant Pharaon. Et là, remarquez comment les choses s'accélèrent. Parce que quand lui voulait faire, à l'âge de 40 ans, ce n'était pas les bonnes méthodes, ce n'était pas le bon moment, il était à contre-temps. Mais maintenant que Dieu dit, c'est maintenant Moïse, tu peux y aller, il a des objections. Il dit, ah Seigneur, j'ai la bouche et la langue embarrassées, envoie quelqu'un d'autre. Il y a 5 objections qui fait monter vers le Seigneur. Ça montre bien que quelquefois nous sommes à contre-temps. Nous voulons faire, ce n'est pas le temps de Dieu. Et quand c'est le temps de Dieu, Dieu dit maintenant c'est bon, tu peux y aller. Eh bien nous disons non Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Et quand nous ne sommes pas focalisés dans le timing de Dieu, ben, nous sommes à côté. Et Moïse a dû comprendre que si Dieu a dit maintenant, ben, c'est qu'il faut y aller, maintenant. Alors, c'est peut-être votre cas si vous êtes maintenant dans une situation d'échec professionnel, vous pensez peut-être que c'est fini pour vous, mais il y a un temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu qui viendra pour vous sortir de cette situation et vous permettre de retrouver une place. Je termine avec un dernier exemple, c'est celui de Ruth. Naomi et Elimelech étaient un couple d'Israélites qui vivaient donc en Israël et il y a eu une famine dans le pays et ils ont décidé d'aller vivre à Moab, dans le pays de Moab. Et là, Elimelech est mort. Les deux fils d'Elimelech et Naomi se sont mariés avec des femmes sur place et au bout de 10 ans, les deux fils aussi sont morts. Donc Ruth était une des belles filles, une des deux belles filles, donc, qui se retrouvait veuve, et elle a décidé de suivre sa belle-mère, Naomi, en disant ben, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Et donc, elle est partie en Israël pour l'accompagner, mais sa situation était difficile parce qu'elle était veuve. Elle n'avait donc plus trop d'espoir pour l'avenir, son mari était mort. Comment allait-elle vivre ? À l'époque, c'était très compliqué d'être veuve. Vous n'aviez pas trop d'issue, vous n'aviez pas d'aide. Mais Dieu avait un plan. Elle pouvait penser dans son esprit, mais moi, je suis seule, je serai toujours seule. Mais Dieu avait un autre plan pour elle, c'est qu'elle est allée glaner dans un champ. Mais en fait, elle n'est pas allée glaner dans n'importe quel champ, elle est allée glaner dans le champ d'un certain Boaz. Elle ne le savait pas. Mais Boaz était la bonne personne qui pouvait la racheter. Et donc, en fait, en contactant Boaz, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre avec Boaz, mais il y avait quelqu'un devant Boaz qui pouvait racheter Ruth. Alors c'est à ce moment-là que Dieu a permis que cette personne qui avait le droit en premier ne laisse ces choses-là, comme quoi tout est conduit par Dieu. Donc Boaz a respecté les choses et il a dit, voilà, c'est à vous, c'est vous le premier, donc c'est à vous. Il a dit non. Et donc Boaz a pu épouser, donc c'est dans Ruth chapitre 3, verset 8, 18, il a pu épouser Ruth et il dit, et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, cet homme, donc en parlant de Boaz, ne se donnera point de repos jusqu'à ce qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et les choses se sont accélérées. Aujourd'hui, c'était le mot de Dieu. Aujourd'hui, Boaz a pris les choses en main et rapidement, donc, le droit de rachat a été fait et elle a été rachetée et elle a pu se marier. On trouve ça dans Ruth 4, 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, elle alla vers elle et l'Éternel permit à Ruth de concevoir un fils. Obed, ça a été le père d'Isaïe qui était le père de David. Et donc Ruth s'est retrouvée du jour au lendemain non seulement mariée, mais dans la lignée même, elle va être à l'origine de la lignée même d'Isaïe et David, Jésus. Donc on va voir que du jour au lendemain, sa situation va complètement changer. C'est ça que Dieu fait, c'est-à-dire qu'il va permettre des rencontre de la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Dieu est tout-puissant pour le faire. Vous ne le savez pas encore, mais Dieu compresse le temps. Regardez Joël chapitre 2, verset 25. Dieu dit, je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazil, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'était des armées de sauterelles qui avaient tout ravagé. Et dans votre vie, il y a peut-être eu des ravages successifs, des sauterelles successives qui ont tout dévasté. Mais Dieu est capable de remplacer ces années de manière miraculeuse en accélérant les processus. Un jour, je sortais d'une réunion de jeunesse et une jeune fille m'interpelle. Elle était fiancée, son fiancé venait de la quitter pour aller avec une autre fille. Et là, elle était en pleurs et elle me dit, « Mais pasteur, ma vie est fichue, je serai toujours seul maintenant, je ne m'en sortirai jamais dans la vie. » Bon, je lui dis, « Quand même, 21 ans, tu as quand même encore de la perspective devant toi pour espérer rencontrer quelqu'un. » Et en lui donnant quelques paroles d'encouragement, finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne personne avec qui elle espérait se fiancer, parce qu'il a très mal tourné par la suite, mais que quelques temps après, elle a rencontré la bonne personne avec qui elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants. Mais il ne fallait pas qu'elle soit avec la première. Donc, quelquefois, on a des séparations, on a des drames qu'on considère, ben, c'est fichu, maintenant je ne m'en sortirai jamais, je serai toujours seul. Mais en fait, ce sont des choses qui sont permises par Dieu pour nous permettre d'être avec la bonne personne. Parce que si cette fille avait persévéré avec le premier, ça n'aurait pas collé, ça n'aurait pas fonctionner parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, il faut vraiment prier pour que Dieu nous permette de saisir vraiment sa volonté et son plan. On va prier quelques instants et je vais inviter notre sœur pianiste à venir, Delphine, pour prendre ce chant en son temps. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes venu ce matin, mais peut-être vous êtes dans une situation bloquée, vous n'arrivez pas à avancer. Il n'y a pas devant vous d'issue. Peut-être c'est la maladie qui vous a frappé et les médecins vous ont dit, voilà, c'est fini pour vous, vous serez toujours comme ça, vous êtes condamné par la médecine. Peut-être c'est un échec professionnel, vous ne savez pas comment rebondir, vous n'avez pas devant vous de perspective. Peut-être vous êtes seul dans la vie et vous dites, ben, je serai toujours seul, personne ne voudra de moi. Mais comme Élie, en peu d'instants, la situation bloquée peut se débloquer. Comme pour Paul et Silas, alors que nous louons le Seigneur, tout à coup, les chaînes peuvent tomber, les portes de la prison peuvent s'ouvrir. Comme pour Moïse, alors que les années ont passé, qu'il semble que les choses sont terminées, eh bien, maintenant, Dieu dit, maintenant, c'est le jour du départ. C'est le temps pour toi de te lever et de rentrer dans la perspective de Dieu. Comme pour Ruth, alors qu'elle est veuve, alors qu'elle n'a plus d'espoir devant elle, aujourd'hui, vous serez conduit vers la bonne personne, au bon endroit. C'est Dieu qui le permet, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, je dirais que pour le temps de Dieu, vous ne pouvez jamais dire « il est trop tard pour moi ». Si c'est le temps de Dieu, c'est qu'il y aura un temps, un jour J, et ça sera la bonne heure, ça sera le bon moment. Il y a un temps que Dieu a prévu. Les changes peuvent changer du jour au lendemain d'un seul mot de Dieu. Et j'aimerais prier pour vous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre que tu ne dépends ni du temps ni des circonstances, mais ce qui nous semble impossible est toujours possible pour toi. Ce qui nous semble si long, si inatteignable, si élevé, si difficile, eh bien Seigneur, tu peux le réaliser en une fraction de seconde. Ce matin, nous croyons que tu peux étendre ta main pour guérir, que tu peux sauver quelqu'un qui est perdu, que tu peux délivrer quelqu'un qui est enchaîné. Seigneur, tu n'es ni limité par le temps ni par les circonstances, mais nous voulons invoquer ton nom. La Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, Seigneur, c'est le temps du salut, c'est le temps de la main tendue de Dieu. Alors que nous sommes en prière, là devant le Seigneur, eh bien, tournons-nous vers lui dans la foi et attendons-nous à son action, dans le nom de Jésus. Amen.